Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et en préparation de cette prédication qui répondra à la question qui est prévue pour aujourd'hui, combien de temps faut-il pour devenir chrétien? Eh bien, nous allons lire deux passages dans la parole de Dieu. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, où nous voyons une œuvre de Dieu dans la vie de Josias, dans 2 Rois 23, le verset 25. Et nous lirons ensuite un deuxième texte dans Actes 16, les versets 11 à 34.
Avant Josias, il n'y eut pas de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Et la deuxième lecture, Acte 16, verset 11, « Embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de ce district de Macédoine, une colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa très instamment. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent aux prêteurs et dirent, « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu.
Qui a le contrôle de vos pensées ce matin? Qui a le contrôle de vos pensées ce matin? Car c'est celui qui les contrôle qui vous enseignera. Et ma prière, c'est que ce soit le Saint-Esprit et rien ni personne d'autre. Combien de temps faut-il pour devenir chrétien? Combien de temps faut-il pour que le soleil soit présent dans une vie pour l'éclairer? Afin que tout soit clair entre nous, lorsque je parle de devenir chrétien, c'est synonyme de la conversion. Car devenir chrétien, c'est se convertir à Jésus-Christ. Et dans sa diversité, Dieu conduit chaque personne destinée à la vie éternelle par un chemin différent. Dans sa diversité, Dieu conduit chaque personne destinée à la vie éternelle par un chemin différent. Vous ne trouverez pas deux conversions à Jésus-Christ identiques. Vous ne trouverez pas deux conversions à Jésus-Christ identiques. Donc il n'y a pas besoin de chercher à imiter quelqu'un. Par contre, nous remarquons facilement deux groupes. Certains vivent un lever du soleil, en passant de l'aube astronomique, qui n'est pas visible à l'œil humain, mais où les premières étoiles disparaissent, le soleil est à moins 18 degrés, puis par l'aube nautique, le soleil est à 12 degrés, les premières lueurs apparaissent, on commence à voir un peu quelque chose. Puis l'aube civile, le soleil est à 6 degrés et la luminosité commence à être suffisante pour même vaquer à certaines occupations pour arriver gentiment au lever du soleil qui devient ensuite de plus en plus puissant et aveuglant au fil de la journée. Généralement, ceux qui vivent ce genre de conversion ne peuvent pas vous dire à quel moment le soleil s'est levé. J'appellerai cela la conversion levée du soleil. D'autres passent d'une pièce sombre à la lumière du soleil en plein midi. J'appellerai cela la conversion soleil de midi. Pour les deux groupes, il y a un temps de préparation avant l'arrivée du soleil. L'un voit des lueurs, etc. Et l'autre doit quand même trouver la porte pour sortir de sa pièce. Il y a un temps T où le soleil s'est levé sur leur vie. Pour l'un, le soleil qui n'était pas encore là est tout à coup là à l'horizon, et pour l'autre, dès qu'il passe la porte. Et il y a un temps après l'apparition du soleil. Et pour les deux groupes, il y a ces trois choses. Alors, combien de temps cela prend-il pour devenir chrétien? Eh bien, je vais vous donner directement la réponse et nous allons ensuite chercher à la comprendre. Eh bien, cela prend longtemps et peu de temps pour devenir chrétien. Drôle de réponse, hein? Combien de temps cela prend-il pour devenir chrétien? Cela prend longtemps et peu de temps pour devenir chrétien. Cela peut prendre longtemps pour l'apparition du soleil et la découverte de tout ce que nous pouvons voir lorsqu'il brille. Et cela prend du temps entre le moment où le soleil n'est pas visible et où il est visible. Non, ça prend peu de temps là. Il n'est pas visible et il est visible. C'est très court. Mais cela prend beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il arrive, par exemple, au lever du soleil. Ou bien jusqu'à ce qu'il trouve la porte pour sortir. Et cela prend beaucoup de temps quand le soleil brille pour commencer à voir tout ce qui se passe dans la vie. Ou pour prendre une autre illustration, celle du plongeoir de piscine. La planche du plongeoir, ça joue, vous, le plongeoir de piscine, ça vous dit quelque chose? Okay. La planche du plongeoir où nous voyons s'avancer le plongeur représente le temps visible de préparation pour arriver au salut. Après, il y a eu le temps pour arriver jusqu'au plongeoir qui n'était pas visible. La conversion, c'est l'entrée dans l'eau. Alors, par exemple, la fourmi peut rapidement traverser la planche et sauter dans l'eau. Ou bien, une chenille mettra plus de temps pour arriver au bout de la planche. Mais dès qu'elle saute, la fourmi et la chenille, le temps du passage de l'air à l'eau est le même. Alors, peut-être que la fourmi est venue depuis beaucoup plus loin. Ça, nous ne savons pas. Peut-être la chenille est née juste à côté de cette planche. Bon. Mais nous voyons le temps qu'elle parcourt sur cette planche pour plonger. Alors le chrétien levé du soleil, vous aurez compris, ici, ben, c'est la chenille. Et le chrétien soleil de midi est la fourmi. Ça va ? Un peu illustré pour comprendre. Hein, maintenant, on va entrer dans des récits historiques. Hein. La Bible nous parle de plusieurs récits historiques de personnes qui sont devenues chrétiennes. Et le texte de 2 Rois 23-25, que nous avons lu tout à l'heure, souligne ce que cela signifie de venir à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est très fort. Et bien des personnes ici présentes pourraient aussi parler de leur conversion. Et le livre de la Bible, nommé « Les Actes des Apôtres », nous rapporte plusieurs expériences de conversion, que ce soit une foule à la Pentecôte, un eunuque éthiopien, un pharisien du nom de Saul de Tarse, Corneille, l'officier romain, Sergius Paulus, le proconsul, des anonymes d'Antioche, Lydie et le geôlier de Philippe, ou encore Crispus, le chef de la synagogue. Et nous allons ensemble nous arrêter sur deux de ces conversions. Ce sera les points 2 et 3 de la prédication qui s'intituleront « Le lever de soleil de Lydie et le soleil de midi du geôlier ». Mais le premier point, puisque ça c'est les points 2 et 3, dans le premier point, nous allons maintenant aborder quelques bases que nous appellerons les 4 P que nous trouvons dans toutes les conversions. Les 4 P que nous trouvons dans toutes les conversions. Voilà. Donc c'est notre premier point. Les 4 P. Ces 4 P indiquent tous une action de Dieu dans la vie de personne qui s'est convertie à Jésus-Christ. Alors, je vais vous les donner en vrac maintenant, les 4. Et ensuite, nous allons prendre quelques instants pour saisir ce que signifie chacun de ces paix, que nous retrouverons ensuite dans les deux témoignages de conversion que nous allons étudier. Voici les 4 paix. Préparation, point de contact, présentation, prise de contrôle. Ok ? Présentation, pardon, il faut que je sois cohérent. Hein. Préparation, je vois que vous êtes attentif. Préparation, premier, prise de contact. Présentation, prise de contrôle. Alors, le premier, préparation. Eh bien, Dieu prépare. Dieu prépare toute conversion. Comme un enfant qui vient au monde passe 9 mois dans le secret où il est préparé pour la vie. La conception pour la nouvelle naissance a été faite dans l'éternité passée. Et la durée de gestation n'est pas définie. Ce n'est pas 9 mois. On n'a pas de temps défini. Mais tout ce qui est vécu depuis la venue à l'existence, et même avant par les héritages qui sont construits et reçus, jusqu'à la conversion, prépare la conversion. Dieu prépare. Et cette préparation amène à être prêt à recevoir l'Évangile, c'est-à-dire à être conscient d'avoir besoin d'un sauveur. Ça, c'est le premier P, la préparation. Dieu prépare pour que nous soyons prêts à dire, mais oui, j'ai besoin d'un sauveur. Lorsque la personne est prête, le deuxième P intervient. C'est la prise de contact. Vous allez me dire, il y a peut-être beaucoup de prises de contact déjà avant dans la préparation. C'est vrai, mais je parle ici de la conversion. Donc lorsque la personne est prête, deuxième P, la prise de contact, la rencontre avec un serviteur de Dieu, un témoin de l'Évangile. Cela peut se faire directement avec une personne, par une discussion, ou par un écrit, ou une émission, ou etc. Mais dans tous les cas, Dieu va se manifester au futur chrétien par le moyen qu'il choisira, et généralement par un serviteur de Dieu, témoin de l'Évangile. Ça, c'est le point de contact. On ne vient pas à la foi sans point de contact. Et Dieu, dans sa souveraineté, organise ce contact. Donc après la préparation, il y a la prise de contact. Et lors de cette prise de contact, il y a le troisième P. C'est la présentation. Le serviteur de Dieu présente le Sauveur selon les Écritures. Donc c'est vraiment un temps important. Il est prêt, donc il y a la prise de contact. Et dans cette prise de contact, la présentation du Sauveur, donc de Jésus-Christ, selon les Écritures, selon ce que la Bible dit. On peut aussi comparer cette prise de contact et cette présentation comme l'accompagnement, si vous voulez, de la sage-femme lors de l'accouchement. Donc le troisième P, présentation, le Sauveur est présenté selon les Écritures. Et suite à la présentation, vous voyez, tout est lié, hein, c'est pas des choses sur tout à l'heure, c'est pas tout est lié. Et suite à la présentation, il y a la prise de contrôle. Hein. Alors, bon, certains me diront que c'est déjà avant, c'est vrai, hein, mais ici je le mettrai, suite à la prise de contact, l'Esprit Saint travaille dans la personne pour sa transformation. Le changement de nature est instantané pour tous. Et la manifestation de cette nouvelle vie, par contre, prend du temps. Toute la vie pour que le changement s'effectue. Et comme un bébé ne se souvient pas de sa naissance, bien des personnes ne se souviennent pas exactement de leur conversion, particulièrement ceux qui ont vécu une conversion levée du soleil. Par contre, chaque chrétien né de nouveau se souvient de points marquants dans sa vie, de moments où il a été saisi par la grandeur de Dieu, par l'horreur du péché. Et le chrétien se repent de ses péchés et saisit par la foi l'œuvre de Christ. Chaque chrétien comprend, sait, veut, désire et se soumet à la prise de contrôle du Saint-Esprit. C'est le quatrième P. La prise de contrôle, le Saint-Esprit œuvre pour leur transformation. Alors pour reprendre l'illustration du plongeoir, le premier P, la préparation, c'est le chemin pour arriver jusqu'à la planche, ainsi que sur la planche jusqu'au bout du plongeoir. Ça, c'est le temps de préparation. D'accord ? Ensuite, le deuxième P, la prise de contact et la présentation, le troisième P, se passe en fait au bout de la planche, lorsqu'il faut sauter. Et le quatrième P, la prise de contrôle, eh bien, c'est lors du saut. Plus possible de contrôler. Le plongeur arrive dans l'eau qui représente la nouvelle naissance, le passage dans un autre état, une nouvelle nature reçue, le soleil est présent. Il y a un avant et un après. Devenir chrétien, c'est passer par ces quatre P. Mais c'est aussi simplement passer de, comme c'est possible de passer de l'air à l'eau, de soleil non visible à soleil visible. Et devenir toujours plus chrétien, c'est vivre continuellement le quatrième P, qui est donc la prise de contrôle du Saint-Esprit. Combien de temps faut-il pour devenir chrétien ? Un instant et toute une vie. C'est ça en fait. Un instant et toute une vie. Alors allons maintenant voir les deux exemples dont nous avons lu les textes tout à l'heure dans le livre des Actes. Donc le premier, le lever du soleil de Lydie, je vous invite à avoir vos Bibles ouvertes hein, dans Actes 16 à partir du verset 11, enfin particulièrement verset 14 et suivant. Donc le jour du sabbat, Paul et ses compagnons cherchent une synagogue comme à leur habitude. Et pour qu'il y ait une synagogue dans un lieu, dans une ville, il faut qu'il y ait minimum 10 hommes juifs. Ce qui ne semble pas être le cas à Philippe, une ville plus romaine que Rome. Paul, avec ses compagnons, Silas, Timothée et Luc, vont vers une rivière, lieu habituel de rencontre de ceux qui craignent Dieu lorsqu'il n'y a pas de synagogue. Et là, ils rencontrent des femmes qui prient. Elles ne sont pas encore converties. Elles ne sont pas sauvées à ce moment-là. Mais comme beaucoup de personnes, elles prient. Lydie a de la sympathie pour Dieu. Elle s'y intéresse et prend du temps pour lui parler. Elle n'adore pas les idoles, mais n'adore pas Jésus-Christ non plus. Elle n'est pas encore chrétienne. Ok, hein, Lydie a de la sympathie pour Dieu. Elle s'y intéresse, prend du temps pour lui parler. Elle n'adore pas d'idoles, mais elle n'adore pas Jésus-Christ non plus. Elle n'est pas encore chrétienne. Pour reprendre les quatre P, c'est le temps de la préparation. On est dans ce temps de préparation. Tout ce qu'elle a vécu jusque-là fait partie de ce temps de préparation. Lydie, dans son lever du soleil, passe par les différentes aubes. Elle lit la Bible qui l'éclaire petit à petit. Elle prend de bonnes habitudes et se détourne déjà de ce qui est mauvais. Mais Lydie a besoin d'être guidée. Et c'est le deuxième P. Lorsqu'elle est prête, hein, la prise de contact, elle rencontre un serviteur de Dieu qui lui parle de Jésus-Christ. Alors dans ce cas, il n'est pas dit ce que Paul a dit à propos de Jésus. Il nous est simplement dit dans le texte, elle écoutait. Elle écoutait. Mais tout le Nouveau Testament nous indique que lorsqu'un serviteur parle du Seigneur, il présente Jésus-Christ, démontrant qu'il est celui qui était annoncé. Il est le Dieu venu sur terre pour vivre une vie parfaite et payer le prix du péché. Il est ressuscité et dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le repos de l'âme. » C'est le troisième P, hein, présenter Jésus-Christ. Et après avoir préparé Lydie pour son attitude, ses désirs de connaître Dieu, après avoir créé cette rencontre avec un serviteur de Dieu, cette prise de contact, voici que le Sauveur lui est présenté. 3 P. Et le quatrième agit. Voilà le quatrième P, la prise de contrôle du Saint-Esprit. Il est dit au verset 14, le Seigneur lui ouvrit le cœur. En fait, il prit le contrôle de son cœur, si vous voulez. Le Saint-Esprit agit dans sa vie et le soleil se lève. Lydie est maintenant pleinement convaincue du message du salut en Jésus-Christ. Le contrôle de sa vie est maintenant dans les mains du Saint-Esprit et elle le manifeste publiquement par le baptême. Ça a été écrit le verset suivant. Elle est plongée dans l'eau. Le baptême, c'est la manifestation publique que le soleil s'est levé sur votre vie. Même si l'aube a été très longue, il y a un moment où le soleil se lève. D'accord ? Donc le baptême, c'est la manifestation publique que le soleil s'est levé sur votre vie. Et même si l'aube a été très longue, il y a un moment où le soleil se lève. Et lorsqu'il est levé, le signe public, clairement enseigné dans le Nouveau Testament, c'est le baptême. Et le baptême est la manifestation visible des quatre P. Dieu a préparé, il a permis cette prise de contact, lorsque la personne était prête. Jésus-Christ a été présenté selon les Écritures, et le Saint-Esprit a pris contrôle de cette vie qu'il travaille et transforme. Et la première manifestation de cette œuvre du Saint-Esprit est le baptême. Celui qui peut être baptisé et qui ne l'est pas, ne peut pas proclamer qu'il est chrétien. Il ne devrait pas prendre la scène qui est le repas communautaire de ceux qui ont publiquement manifesté leur foi. Combien de temps cela a-t-il pris à Lydie pour devenir chrétienne ? La conversion de Lydie a pris du temps, car elle était déjà adulte, exerçant un métier. Elle priait déjà, mais ne connaissait pas le Sauveur. De plus, après la découverte de l'Évangile, le Saint-Esprit allait œuvrer en elle pour la faire grandir et devenir mature dans la foi. Cela ne se fait pas en un jour. Cela a pris du temps. Un bébé spirituel ne devient pas adulte d'un coup. Mais en même temps, la conversion de Lydie a été très rapide. Le matin où elle s'est rendue au bord de la rivière où elle a rencontré Paul, elle n'était pas chrétienne. Et lorsqu'elle est rentrée à la maison ce jour-là, elle était chrétienne. Vous voyez ? Donc en même temps, ça a pris beaucoup de temps, et en même temps, c'était très rapide. La conversion de Lydie a été très rapide dans ce sens-là. Le matin où elle s'est rendue au bord de la rivière, où elle a rencontré Paul, elle n'était pas chrétienne. Et quand elle est rentrée à la maison, elle était chrétienne. Si un enfant ne devient pas adulte d'un coup, il vient à la vie en peu de temps. Il y a un avant et un après la venue au monde. Et ce temps n'est pas long. Pour la conversion, c'est même instantané. Il y a un avant en étant mort spirituel et un après en étant vivant spirituellement. C'est instantané. Il est vrai que dans l'aube de la conversion de Lydie, de bonnes habitudes avaient déjà été prises. Et elle ne va pas les changer. Bien des choses sembleront identiques à ce qu'elle vivait avant. Mais ce qui a changé, c'est qu'elle le faisait par intérêt, alors que maintenant elle le fait par amour. Après une conversion levée du soleil que nous pourrions encore développer, en démontrant que cela arrive souvent dans les familles chrétiennes, j'aimerais maintenant vous parler d'une conversion soleil de midi avec le geôlier de Philippe. C'est notre troisième point, le soleil de midi du geôlier. Le geôlier de Philippe a vécu une autre expérience. Il n'avait aucun intérêt pour les choses de Dieu. Aucun. Il n'avait aucun intérêt pour les choses de Dieu. Il était dans sa pièce sans lumière. C'était un dur. Vous savez, pour devenir geôlier, il ne fallait pas simplement envoyer une petite lettre de postulation, puis attendre si on est pris ou pas. Non. Il fallait avoir connu la guerre. il fallait savoir se battre et ne pas avoir peur de mettre à mort. De plus, la loi était stricte et simple pour un geôlier. Le geôlier devait garder ses prisonniers, et si l'un d'eux s'échappait, c'était très simple. Le geôlier devait purger la peine du prisonnier qui s'était échappé. Ce n'était pas un travail pour un peureux ou pour un sentimental. Le geôlier, d'ailleurs, a dû attraper Silas et Paul avec ses bras rugueux, les faire avancer rudement jusqu'au dernier cachot, où il les a sûrement rudoyés et il les a bloqués avec un bois, donc il a bloqué leurs pieds avec un bois pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Ce qui a sûrement déjà marqué ce geôlier, c'est que malgré ses actions rudes, ses prisonniers, au contraire de bien d'autres, n'ont sûrement pas protesté. Ils ne se sont pas débattus et ne lui ont pas envoyé des jurons à la tête. Cet homme qui vit dans une pièce sans lumière peut déjà apercevoir que les chrétiens sont différents. Cet homme qui vit dans une pièce sans lumière peut déjà apercevoir que les chrétiens sont différents. Et que se passe-t-il la nuit? Eh bien, il entend un son étrange et inhabituel. Il s'approche de la prison et il entend des chants. Il n'avait jamais entendu cela en prison. Des chants. Et qui chante? Ce sont ceux qu'il a mis tout au fond et qu'il avait bloqué avec les pieds afin qu'ils ne s'échappent pas. C'est eux qui sont en train de chanter. Bon, maintenant qu'il sait ce qui se passe, on verra demain ce qu'il faut faire avec ces deux à l'endormir. Paul et Silas ne se lassent pas. Ils prient et chantent les louanges de Dieu que les autres prisonniers peuvent entendre pendant longtemps. Ce qui va expliquer aussi la réaction des prisonniers après. Si nous avons vu déjà une première préparation du geôlier dans l'attitude de Paul et Silas, il n'a pas cherché à comprendre ce qu'il entendait dans ses chants dans la nuit. Le deuxième P, la prise de contact, n'a pas encore eu lieu. Il n'est pas encore prêt. Mais, au milieu de la nuit, le tremblement de terre ouvre toutes les portes et les chaînes de tous les prisonniers se détachent. Face à cette situation, souvenez-vous de geôlier, hein, si des prisonniers s'échappaient, qu'est-ce qui se passait, hein? Face à cette situation, il devait subir la peine de tous les prisonniers qu'il croyait partis. Dans cette situation, il veut s'exécuter avant que les bourreaux ne le fassent. Le geôlier était perdu, il se savait perdu, et jamais auparavant il n'avait vécu cela. Il pensait toujours tout maîtriser dans ses prisons. Mais là, il était tout à coup conscient qu'il n'avait aucun moyen d'échapper au jugement. Et c'est là qu'il entend la voix du serviteur de Dieu. Le deuxième P, la prise de contact. Celui qui rudoyait les prisonniers se retrouve à genoux tremblant devant les prisonniers. Celui qui rudoyait les prisonniers se retrouve à genoux tremblant devant les prisonniers. Celui qui avait la clé pour ouvrir les cellules était lui-même enfermé dans la cellule de la peur et de l'attente du jugement. Celui qui avait la clé pour ouvrir les cellules était lui-même enfermé dans la cellule de la peur et de l'attente du jugement. Mais aucun prisonnier ne s'était échappé. Aucun. Mais c'est lui maintenant qui va en sortir d'eux et qui va les amener chez lui. Et il pose une question fondamentale. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ça, c'est le verset 30 du chapitre 16. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Souvenez-vous, nous n'assistons pas à une conversion levée du soleil, mais soleil en plein midi. Il est encore dans sa pièce sans lumière et il cherche la porte. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et voici le troisième P, hein, la présentation. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Le Seigneur est présenté. Impossible d'être sauvé sans connaître le Sauveur. Le Seigneur est présenté. C'est impossible d'être sauvé sans connaître le Sauveur. Il s'agit du Sauveur tel que décrit dans la Bible, qui ne change pas. C'est normal qu'il ne change pas. On en a parlé hier un petit peu d'ailleurs. Aujourd'hui, on veut toujours du neuf. Hein? Et si ce n'est pas nouveau, c'est considéré comme inintéressant. Mais si quelque chose est vrai, cela ne peut pas changer. Sinon, ce n'est pas vrai. chant gospel dit « Give me that old time religion. » Donne-moi cette religion d'autrefois. Eh bien oui, nous voulons entendre la bonne nouvelle du salut qui est la même depuis 2000 ans et qui sera la même jusque dans l'éternité. Le Sauveur est présenté. Le geôlier est saisi par le Saint-Esprit qui travaille et qui œuvre dans ce cœur rude et sans pitié. Ses mains calleuses, plutôt habituées à donner des coups pour voir à faire mourir, lavent les plaies et demandent le baptême qui manifeste devant tous sa foi en Christ. Cette foi qui a été la cause même de l'emprisonnement de Paul et Silas. Le contrôle de la vie du geôlier est maintenant dans la main du Saint-Esprit. Celui qui a mis Paul et Silas au cachot, sûrement sans manger ni boire, les fait maintenant monter dans sa maison pour les mettre à table. Celui qui était dans un désespoir si profond qu'il voulait se suicider est maintenant dans la joie d'avoir cru en Dieu. Ça, c'est la prise de contrôle du Saint-Esprit. Le contrôle de la vie du geôlier est maintenant dans la main du Saint-Esprit. Celui qui a mis Paul et Silas au cachot, sûrement sans manger ni boire, les fait monter dans sa maison pour les mettre à table. Celui qui était dans un désespoir si profond qu'il voulait se suicider est maintenant dans la joie d'avoir cru en Dieu. Dès qu'il est sorti de sa pièce sans lumière, le geôlier est ébloui par le soleil de midi. Il a clairement vu sa situation et la gloire de l'œuvre de Christ s'est manifestée. Il s'est résolument tourné vers lui. Oui, c'est vrai, il aura encore besoin de temps pour observer et découvrir ce que le soleil lui permet maintenant de voir. Tout comme Lydie, qui chemine pour devenir adulte dans sa foi. Si les deux conversions sont bien différentes, que l'une est plutôt comme un lever du soleil et l'autre plutôt comme un soleil de midi, nous y trouvons les quatre P. La préparation. Dieu prépare. Une fois prêt, la prise de contact, la rencontre avec le serviteur de Dieu qui présente, troisième P, qui présente le Sauveur selon les Écritures. Et la prise de contrôle du Saint-Esprit qui travaille, agit dans le cœur, qui répond à l'appel de Dieu et qui se met en action. Vous pouvez reprendre toutes les histoires de conversion du Nouveau Testament, vous y trouverez ces quatre P. Toutes les histoires de nos propres conversions, et vous retrouverez ces quatre P. Pour ma part, Dieu m'a préparé en me plaçant dans une famille où mon père et ma mère aimaient Dieu et m'ont enseigné sa parole dès ma plus tendre enfance. Et à un moment donné, il y a une situation où on voit que Dieu préparait le cœur. Et j'ai demandé à mes parents, que faut-il faire pour être sauvé? Je ne sais pas si j'utilise exactement ces mots-là, mais c'était cette idée. J'avais 4 ans. La prise de contact avec les serviteurs de Dieu, c'était mes parents qui m'ont présenté, troisième P, qui m'ont présenté Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit a agi dans mon cœur afin que je désire que Christ vienne dans ma vie et me donne de vivre la repentance et la foi. Le Saint-Esprit, dans le contrôle qu'il a pris dans ma vie, m'a donné une idée fixe à 6 ans pour que je... Dès 6 ans, c'était clair, je devais être un serviteur de Dieu. À 10 ans, toujours dans ce contrôle du Saint-Esprit, il m'a fait passer par une nuit d'orage absolument comme un jugement, quoi. Et ça m'a rapproché de Dieu. À 16 ans, dans sa maîtrise, son contrôle, il m'a permis de comprendre que la mission, c'est pas seulement partir, c'est aussi rester en Suisse. À 29 ans, toujours dans son contrôle, il m'a permis de comprendre les doctrines de la grâce. À 36 ans, il m'a permis de découvrir les artisans de paix, enfin, etc. Il continue à œuvrer dans mon cœur, à me montrer mes péchés, qui malheureusement, c'est vrai, sont encore bien trop présents. Mais dans son contrôle, il me pousse à m'en repentir et à saisir l'œuvre purificatrice de Christ. Combien de temps cela prend-il pour devenir chrétien? Eh bien, le changement de vie est instantané, mais la vie est changée pendant toute la vie. C'est ça en fait. Il est impossible que vous êtes... Je reprends. J'ai dit un mot faux. Il est possible. Il est impossible. Il est possible que vous êtes de ceux que Dieu prépare au salut et que cette prédication que vous entendez fait partie du processus par lequel il veut vous amener à placer maintenant pleinement votre confiance en lui. Es-tu comme Lydie dans l'aube, ayant déjà des lueurs du Sauveur par le contexte dans lequel tu vis? Ou es-tu comme le geôlier dans une pièce sans lumière, n'étant même pas conscient de tes besoins? Mais dans les deux cas, tu as besoin du Sauveur. Pourquoi? Parce que depuis que le monde est pécheur, nous sommes sous le jugement de Dieu. Personne, d'ailleurs ici, ne peut dire n'avoir jamais péché. Oh, beaucoup de gens pensent être bien. C'est peut-être votre cas. Mais n'avez-vous jamais menti? Un petit mensonge, peut-être même simplement une exagération. Cela, si ça passait une seule fois, cela fait de vous un menteur. Vous pensez peut-être ne pas être adultère, mais n'avez-vous jamais eu de fantasme avec une personne qui n'était pas votre femme ou votre mari? Si cela s'est passé une seule fois, vous êtes adultère. Vous vous dites peut-être, bon d'accord, mais j'ai tué personne. Mais Jésus a dit que celui qui dit imbécile à son frère est digne du même jugement. Ou Jean dit que celui qui est de la haine, même passagère lorsque quelqu'un vous coupe la route, hein, celui qui a de la haine est un meurtrier. En fait, lorsque nous réfléchissons sérieusement à notre vie, sans chercher à jouer un rôle, porter un masque, nous voyons que nous méritons le jugement de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu vous prépare à recevoir le salut. Car celui qui se croit en bonne santé ne va jamais se soigner. Mais celui qui se sait pécheur, perdu pour l'éternité, sait qu'il a besoin de secours, car il est conscient qu'il ne pourra pas s'en sortir par lui-même. Et c'est là la prise de contact avec un serviteur de Dieu, qui peut être une personne, comme un pasteur, un parent, un ami, mais aussi un écrit, une émission radio, une vidéo d'un serviteur de Dieu. Nous avons besoin de recevoir une information, mais pas n'importe laquelle. Il faut une présentation de Jésus-Christ, selon les Écritures. C'est l'Évangile qui nous indique notre perdition et l'œuvre de Dieu qui est venu lui-même pour accomplir le salut, pour que nous puissions être sauvés, parce que nous ne pouvons pas accomplir notre propre salut. Et le moyen qu'il nous donne pour le saisir, c'est ce que l'on appelle la repentance et la foi. Les deux faces de la médaille appelées conversion, la repentance et la foi. Nous nous repentons de nos péchés. Alors se repentir signifie avoir du regret, considérer le péché comme mauvais, réparer ce qui est possible et s'en détourner. C'est ça se repentir. En passant, la réparation n'ôtera pas notre culpabilité d'avoir péché, mais cela manifeste une vraie repentance. Et avec la repentance, nous aurons la foi en Christ. Avoir la foi en Christ, cela signifie croire qu'il a pris sur lui le poids, la conséquence, le jugement de mes péchés et qu'il a payé à la croix. Il a vécu une vie parfaite, sans péché qu'il me donne, et je crois que tout ce qu'il dit est vrai et juste. C'est lui qui enlève ma culpabilité. C'est ça, croire en Christ. Et la présentation faite, lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, je réponds avec la repentance et la foi. Je vis ensuite ma foi en la manifestant publiquement par le baptême. Et je vis dans le corps de Christ qui est l'Église locale. Combien de temps faut-il pour devenir chrétien? Je terminerai avec deux questions. N'es-tu pas encore chrétien? Alors, repens-toi de tes péchés et crois en Jésus-Christ qui deviendra ainsi ton roi et cela ne prendra qu'un instant. Et tu seras chrétien. Donc n'es-tu pas encore chrétien? Alors repens-toi de tes péchés. Crois en Jésus-Christ qui deviendra ainsi ton roi. Et cela ne prendra qu'un instant et tu seras chrétien. Deuxième question. Es-tu déjà chrétien? Alors persévère dans la foi. Sois vivant en Christ. Et progresse dans la maturité. Cela prendra toute ta vie pour être un chrétien. Es-tu déjà chrétien? Alors, persévère dans la foi. Sois vivant en Christ et progresse dans la maturité. Cela prendra toute ta vie pour être un chrétien. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, tes voies sont étonnantes, mystérieuses. Nous ne pouvons comprendre comment exactement une personne est transformée par toi. Pourquoi une personne passe par un chemin et l'autre un autre chemin. Mais nous savons que tu es ce Dieu qui agit, qui prépare, qui permet l'annonce de ta parole et qui prend le contrôle par ton esprit. Seigneur, j'aimerais te remercier pour tous ceux qui, ici, ont déjà le soleil levé sur leur vie. Et j'aimerais te prier que chacun puisse se réjouir de la manière dont tu l'as fait. Puisse être capable de voir différentes étapes, différents points clés dans leur vie qui montrent ton œuvre et que nous te glorifions. Seigneur, c'est vrai que nous vivons toute notre vie pour être un chrétien, mais nous ne le vivons pas seuls. Nous la vivons avec toi. Comme le dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Ô Seigneur, que tu sois en plein contrôle de notre vie. Merci pour cette grâce, parce que tu es celui qui contrôle le mieux. Et Seigneur, j'aimerais te remettre aussi tous ceux qui ici n'ont encore pas le soleil levé dans leur vie. Tu vois, ceux qui, pour la plupart qui sont dans ce cas, sont dans l'aube, ont déjà entendu parler de toi, ont peut-être déjà des habitudes qui sont bonnes, mais où le soleil n'est pas levé. Ou si tu reviens aujourd'hui, ils sont perdus pour l'éternité. Et Seigneur, j'aimerais te remercier pour la merveilleuse nouvelle que tu nous donnes aujourd'hui. C'est que devenir chrétien, cela ne prend qu'un instant. Il n'y a pas à chercher des jours ou des mois pour devenir chrétien en se demandant si le jugement arrive entre deux. Non. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Merci pour ces paroles que tu nous dis dans les psaumes et dans Hébreux, qui sont si forts, et j'aimerais te prier qu'ils soient appliqués dans nos vies. Pour ceux qui n'ont pas encore ce soleil dans la vie, eh bien Seigneur, que cela soit marquant. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et pour tous ceux qui sont dans la foi où le soleil s'est levé, aide-nous Seigneur à ne jamais endurcir notre cœur non plus, dans tout ce que tu nous donnes, dans tout ce que tu nous dis. Et j'aimerais Seigneur te prier que beaucoup encore ici autour, ceux qui n'étaient pas là ce matin, qui nous pourront témoigner, puissent encore apprendre à te connaître. Merci pour tous ceux que tu prépares. Donne-nous d'être prêts à être ses serviteurs pour le point de contact. Et Seigneur, aide-nous à avoir une présentation de l'Évangile qui soit claire dans nos cœurs, dans nos têtes, et qui soit fiable et posée sur ta parole. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui vivent aussi dans la persécution parce qu'ils te connaissent. J'aimerais te prier de les garder fidèles. Dans le bon nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.